L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Ce que j'essaie de faire sur Volant, c'est de regarder comment la société évolue, évidemment, mais aussi de critiquer un certain nombre de choses comme les idées binaires, comme les idées reçues, comme la course au buzz. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans le film Les Méchants, qui sort demain, avec notamment Roman Frécinet, Jimmo, Lidvin Sanier, Omar Sy, Fary, Mathieu Kassovitz, Euslan Foiré, bref, un certain nombre de têtes d'affiche. Et c'est un film de Mouloud Achour, que vous connaissez sans doute, puisqu'il a œuvré énormément de temps au Grand Journal sur Canal+, mais aussi dans la matinale, et qui aujourd'hui a créé Click TV. C'est un journaliste, un animateur de télévision, et désormais un réalisateur de films. Et j'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui sur le podcast. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le recevoir, parce que c'est une personne que j'admire énormément, que j'apprécie aussi beaucoup. Et donc avec Mouloud, on parle de beaucoup de choses, de son film évidemment, mais aussi de tout ce que ça implique, parce que vous allez voir que, et j'espère que vous irez voir le film, il y a une critique de la société et en même temps c'est une comédie, et j'adore le fait qu'il utilise ce mode de narration pour faire passer des idées qui sont extrêmement importantes à mes yeux. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Mouloud.
Salut.
Comment tu vas?
Comme avant la sortie d'un film intitulé Les Méchants, sur lequel on a mis tout notre cœur et notre âme pour faire rire les gens dans une salle de cinéma. Parce que ça nous manque de rire un peu tous ensemble.
Ça, c'est clair. Et je me pose une question. Tu vois, j'ai vu le film, j'ai adoré.
Merci.
Vraiment. Je me dis, pourquoi, pour ton premier film, tu as décidé de faire une critique de la société qui est... Tu vois, ce que je trouve génial, c'est que c'est une critique de la société et en même temps, c'est drôle. Mais pourquoi tu as décidé d'utiliser ce sujet-là pour ce premier film?
Parce que quand on prend des films comme Marche à l'ombre, Les Valseuses, Rabbi Jacob, ou même Charlie Chaplin ou Mel Brooks, c'est des comédies où il y a un fond sociétal. Ouais. Et que moi, j'arrive pas à rire de choses qui m'ont pas fait souffrir, en fait. Et c'est une bonne façon d'expier les choses. J'ai passé une enfance où dès qu'il y avait une galère, on en rigolait en fait avec mes potes. Dès qu'il nous arrive un truc super relou, il y a toujours putain relou, et il y a une vanne qui arrive après, quelle que soit la galère quoi. Et en fait ce film, j'avais envie de faire une espèce de constat un peu de la société et de se dire, mais plutôt que de faire une œuvre qui tire sur les uns, qui tire sur les autres, j'avais envie de réunir dans une même salle tous les gens, quelle que soit leur opinion politique, quelle que soit leur origine sociale, ethnique, de les rassembler juste tous ensemble pour se marrer, quoi. Il y a un mec intéressant, il est pas sur Instagram, mais il avait dit « aimez-vous les uns les autres ». Moi, j'aimerais bien dire « rigoler les uns des autres ».
Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui est au tout début du film. Non, je vais pas gâcher ça, parce que sinon, c'est nul.
Quoi?
Hein?
Vas-y, tu peux.
Le message sur le téléphone, tu sais.
Ah oui. Mais en fait, c'est comme si on se baladait tous avec le diable dans notre poche, quoi. Mmh. On a créé un outil incroyable avec tous les savoirs humains et toutes les langues à portée de clic. Et en fait, on a beau avoir l'outil le plus intelligent du monde, l'humain reste profondément capable du pire, quoi.
C'est clair.
Et je trouve que c'est ce que ça raconte, ce film, c'est de se dire, avec tout ce qu'on a comme outil de connaissance, de vérification de l'information, on emmagasine tellement de choses qu'on vérifie rien, et que deux personnes peuvent être, le temps d'une journée, les méchants les plus recherchés de France. sans que ça n'émeuve personne, quoi.
C'est une critique aussi des médias. Mmh. C'est quoi aujourd'hui, toi, t'es journaliste, c'est quoi ta vision des médias?
Ma vision des médias, c'est que journaliste, c'est un métier auquel je fais une déclaration d'amour dans ce film. Parce que c'est un métier sublime, journaliste. C'est une vocation, que c'est dur. C'est un métier précaire. Et c'est un métier qui est en voie de précarisation parce que l'information est gaffaïsée. Aujourd'hui, une information est relayée sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux fonctionnent avec des algorithmes. Des algorithmes qui ont besoin de fonctionner à l'émotion pour créer de l'engagement. Et cet engagement polarise la société. Et donc, les articles seront écrits en fonction de ça. Une fois qu'on a dit ça, on se demande une seule chose. C'est quoi un réseau social? Bah, en fait, c'est une régie publicitaire qui ne dit pas son nom. Et le produit d'appel du réseau social, c'est nous. Quand on pense qu'on est des méga rebelles parce qu'on a exprimé son opinion sur Facebook ou sur Instagram, en fait, le seul truc qu'on a fait, c'est de dire à une régie pub ce qu'on pensait, quels étaient les gens qui pensaient comme nous et qu'est-ce qu'on allait pouvoir nous vendre.
Et en même temps, dans le film, vous parlez vachement de la quête du buzz. Et quelque part, il y a un certain nombre de médias qui surfent là-dessus, tu vois, en particulier sur Twitter.
Mais c'est pour ça que je dis que l'information est gaffaïsée. C'est-à-dire que aujourd'hui, Google possède la majorité du marché publicitaire. Donc les médias sont tenus économiquement par ces boîtes. C'est pas le média indépendant ou le média traditionnel ou la chaîne d'information que je vise. C'est ce système-là. Moi, j'ai du respect pour tous les gens qui travaillent dans ce métier. Qu'ils soient d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, j'en ai rien à faire. C'est la seule chose que j'essaie de dénoncer dans ce film. C'est pas les opinions contraires, c'est un système qui joue sur les divisions et qui joue sur le clash, sur le buzz, alors qu'on est dans une société tellement crispée, dans un moment critique de l'humanité où la démocratie est en danger, qu'il faut être capable d'aller à contresens de cette façon de vendre de l'information et que ça serait bien d'apaiser les choses.
Et pour toi, du coup, comment un média peut réussir à... Est-ce que c'est même possible, en fait?
C'est pour ça que j'en ai fait un film, en fait. Parce que j'ai pas la réponse. Ouais. Moi, j'avais juste envie de transformer ces inquiétudes et ces doutes en expression artistique, en cinéma et en comédie. Je pense que quand Chaplin faisait je sais pas moi, le dictateur... Il n'avait pas la solution à comment est-ce qu'on fait en sorte que l'humain ne devienne pas une horreur nazie.
Ouais, bien sûr.
Il n'avait pas la solution.
Clairement. Il y a aussi une critique des visions binaires.
Ouais.
Des experts. J'aime bien qu'on revienne là-dessus sur, tu vois, les experts autodéclarés. Il y a cette phrase en particulier de « moi je suis expert de tout, je sais plus lequel ».
Ouais, je suis expert de tout, on m'invite sur tous les sujets. C'est ça. On l'a vu là récemment, les experts du Covid sont devenus des experts de l'Afghanistan. Ouais. Après, ils sont devenus experts en météo. Mais au-delà des gens qui sont sur les plateaux dans les chaînes d'info, c'est même nos amis sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui à quel point quelqu'un qui fait le métier d'influenceuse, qui est un métier que je respecte, c'est un métier comme un autre, est capable dans la même journée de poster une photo d'un drame humain en Palestine et juste après, il y a un code promo. J'arrive pas à comprendre dans quel monde on est, en fait. Et ce que je me pose derrière comme question, c'est pourquoi est-ce que la parole de certaines minorités n'est représentée que là? Pourquoi est-ce que les médias font pas leur job en donnant la parole à tout le monde, à toutes ces sensibilités-là? Moi, je ne fais que poser des questions à travers ce film. J'ai aucune réponse. Mais je me dis juste que plutôt que de critiquer cette influenceuse qui exprime quelque chose sincèrement, pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce que leurs paroles ne soient certaines informations ne soient entendues que là?
Clairement. Et du coup, comment toi, en tant que journaliste, t'arrives à gérer le fait que tu invites des gens qui soient pertinents, tu vois, qui soient des experts, entre guillemets, sur leur domaine? Enfin, il y a beaucoup d'artistes, évidemment, mais comment tu gères cette problématique, au final, de gens qui s'auto-exclament?
Tu veux dire, moi, mon métier de journaliste?
En tant que journaliste, toi, ouais.
Déjà, je suis pas journaliste. J'ai pas la carte de presse. J'ai été rédac chef de plein de journaux, mais j'ai jamais voulu appartenir à cette caste.
D'accord.
Moi, je suis un passeur. Donc, quand je fais clic, je me mets en retrait. Et je pose des questions à des gens qui ont travaillé sur des sujets ou qui produisent des œuvres. Donc je me repose sur leur savoir à eux, sur un sujet précis. Mais je demande pas à n'importe qui l'avis sur n'importe quoi. J'ai un respect infini pour les artistes que je reçois. Et je considère que tout le monde chez nous est reçu à la même enseigne, qu'il soit connu, pas connu, en devenir, qu'on considère trop âgé ou trop jeune. Et c'est là, mon métier, je le situe d'une manière vraiment très très basique, quoi. Je suis très en retrait dans les interviews sur Click. Je suis vraiment là pour mettre des gens en avant, que je sois d'accord ou pas. Moi, je donne une proposition de voilà, j'ai envie de vous faire présenter cette personne. Et je véhicule jamais mes engagements en public. Mes engagements politiques, ils sont dans l'urne, tout simplement. Donc, j'ai malheureusement pas la prétention de vouloir peser sur quoi que ce soit dans le débat public. Moi, j'ai juste ma mission est artistique, quoi. Je vais pas faire de politique. Ma mission est artistique.
Ouais. Et en même temps, c'est marrant. Alors, d'abord, ce que tu dis, ça résonne vachement parce que moi, je parle que de liens, donc forcément, ça résonne. Et en même temps. Pour moi, tu vois, quand je pense à mon podcast, pour le coup, je considère que c'est un acte politique en tant que tel. C'est pas de la politique, tu vois, parce que.
Mais chaque prise de parole est un acte
politique. Une prise de parole, c'est une politique. Enfin, c'est un acte politique.
Chaque prise de parole est un acte politique. Moi, ils me font doucement marrer, les gens qui nous disent, oh, le rap, c'était mieux avant, aujourd'hui, le rap, il est pas politique. C'est pas parce que quelqu'un dans ses textes ne dit pas va lire un bouquin, Frantz Fanon, mais si on le voit dans son quartier, entouré de potes qui sont là tout le temps et de qu'on comprend à travers ces textes qu'il y a du nihilisme, du désespoir et qu'on lui a mis dans la, qui a juste des envies matérialistes, ça dit beaucoup plus de la jeunesse, de l'état dans lequel elle est, que de quelqu'un qui va faire une thèse. Donc tout est politique. Une blogueuse qui parle de mode, c'est politique. Quelqu'un qui rêve d'accéder à ce point-là, à la consommation. Et qui devient un outil de communication pour des marques, bah c'est un fait politique. Mmh. Je trouve que par exemple, une Lena Situation, c'est quelqu'un qui fait évoluer les mentalités dans un sens tellement positif, dans la représentation, que c'est politique. Et que c'est, je trouve que je voudrais saluer cette fille parce qu'elle a été victime de beaucoup de haine. Mmh. Et je la salue. Parce qu'il y en a peu comme elle et il y en a peu comme nous et qu'on n'a pas à se tirer les pattes dans les pattes.
C'est clair. Et en même temps, enfin, tu vois, je suis aussi assez admiratif de cette fille. Et en même temps, pour être tout à fait sincère, il faut faire une déclaration d'amour, mais je suis hyper admiratif aussi de ton parcours à toi.
Tu vois, merci.
Parce que je trouve que c'est admirable. Enfin, tu vois, de venir d'un milieu qui était plutôt populaire et d'arriver comme ça à grandir, etc., par la force de tes bras, je trouve ça. Juste énorme, tu vois, j'ai fait un chemin un peu similaire à moins, enfin, tu vois, moins sur la télé, etc. Mais je vois la difficulté du truc. Et du coup, je me demande dans le film, comment ça a joué comment ta construction a joué sur le film?
En fait, le film, il est très autobiographique. Et il y a dans le film beaucoup d'étapes de ma vie, beaucoup de moments marquants, beaucoup de gens qui m'ont marqué, beaucoup de références à des.
Des tonnes de références.
Il y a des tonnes de références à des moments. Et en fait, l'idée, c'est de ne jamais rien renier et de ne jamais oublier, en fait. Je pense qu'on nous raconte à travers le mythe du self-made man ou de la réussite sociale quelque chose qui fait beaucoup de mal aux classes populaires. Beaucoup, beaucoup de mal. On s'épanouit pas qu'à travers la réussite. Et malheureusement, le système économique est fait de la sorte où faut pas mentir aux gens. Tout le monde ne peut pas réussir.
Enfin, réussir de cette manière-là, en tout cas.
Réussir de. Et j'aimerais bien ne pas rentrer dans ce jeu de l'exception. J'ai pas à vendre ma misère, j'ai pas à vendre mon passé, j'ai pas à glorifier. Il y a une espèce de marketing de moi, j'ai galéré, auquel j'adhère pas, quoi. Moi, j'ai trop de respect pour la dignité des gens qui se lèvent le matin, qui nourrissent leur famille, qui tracent, pour ceux qui font des trucs même des fois illicites parce qu'ils n'ont pas le choix. J'ai trop de respect pour cette dignité-là pour en faire un fonds de commerce, en fait. J'ai jamais raconté tout ça. Je me la raconterai jamais avec ça. J'ai grandi dans le 93, mais moi, je faisais partie des mecs cool. Et il y en a plein, des mecs comme moi. On est même la majorité. Les gens les moins cools que j'ai rencontrés n'étaient pas en banlieue, en fait. J'ai eu la chance de passer de l'autre côté du périph' et de franchir certains plafonds de verre. Et croyez-moi, les gens les moins cools que j'ai rencontrés vivent pas en banlieue.
C'est clair. Et en quoi du coup le film il est autobiographique? Enfin, quand tu dis ça.
Parce qu'il y a un peu de moi dans les deux personnages principaux. Dans le personnage du jeune vendeur de la boutique, dans la télévision. Et il y a un petit peu de gens de ma famille, de mon entourage. Il y a plein de choses en fait dans ce film.
C'est clairement un film familial.
C'est un film très familial. Ouais, très, très familial.
Quand on connaît un petit peu ton entourage,
ouais.
Clairement c'est un film familial. Enfin, ouais. C'est vraiment un film où tu as tous tes potes, quoi, quasiment.
Bah, c'est encore plus dur en fait quand c'est des gens dont on est proche. C'est qu'il y a une différence entre si demain j'interviewe un artiste et que je l'avais beaucoup reçu dans mon émission, qu'il y a forcément une connivence qui peut créer à l'antenne, et d'aller voir cette personne qui est sur sa trajectoire professionnelle et lui dire bah tiens, j'ai écrit un film, est-ce que tu veux jouer dedans? Mais le jour où on doit passer cette étape, on doit être irréprochable en fait.
Ouais, c'est clair.
Donc il y a une exigence qu'on s'impose entre nous qui fait que ça rend les choses très très fluides. Typiquement, Omar Sy, je me suis fait des nœuds au ventre avant qu'il voie le film.
J'imagine.
Quand il a eu le lien du film, quand il l'a vu, j'en dormais pas en fait. Je me dis mais qu'est-ce qu'il va en penser? Qu'est-ce qu'il va en penser Omar?
Alors que tu le connais depuis tellement longtemps.
C'est parce que je le connais depuis tellement longtemps et que j'ai un respect infini pour lui, pour sa famille, pour toutes les valeurs qu'il représente. Et puis, il ne faut pas oublier que le travail qu'il faisait avec Fred sur le SAV délivrait une telle qualité, une telle constance, il faut être un génie. Il y a un moment où les faits sont là. Le mec, il a prouvé à quel point il était fort dans un domaine. Quand il arrive au cinéma, il encore plus, et sa carrière ne fait que commencer. Donc, quand j'ai pas peur de démo, c'est une légende vivante, accepte de jouer dans le film et qu'on attend son feedback quand il l'a vu, on dort pas.
Et
là, c'est plus Omar, mon pote, quoi. C'est le jugement d'Omar, quoi.
Le professionnel, quoi.
Et il a bon, vraiment, je le remercie encore d'avoir accepté de faire le film. Ça a été mais comme il y a eu des versions de scénario qui ont pas été validées par des comédiens, on a retravaillé. Donc c'est pas un film de potes, c'est un film de gens qui ont envie de faire des choses ensemble.
Un autre sujet que tu critiques vachement, c'est les a priori. Donc il y a en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, pour moi en tout cas, il y a la recherche du buzz, il y a les visions binaires, et il y a aussi les stéréotypes. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Qu'est-ce qui te... Pourquoi t'as voulu critiquer ça? Enfin, qu'est-ce qui te...
Parce que ce mot méchant, par exemple, quand une femme demande l'égalité salariale ou l'égalité de traitement en entreprise, on dit elle est folle, elle est méchante, elle est hystérique. Quand il y a une grève et que le train il est en retard, c'est le cheminot qui lutte qui est méchant, parce qu'on on a raté notre train. Et il y a eu une espèce d'inversion comme ça. Quand des gens étaient dans la rue pour protester contre la hausse du carburant, tout d'un coup, ils étaient méchants, mais personne n'a expliqué que, mais en fait, ces euros-là, c'est des gens qui prennent leur voiture pour bosser loin, parce que l'usine d'à côté a fermé et qu'il faut aller ailleurs. En fait, ces euros-là, ils comptent. Quand on enlève 5 euros d'APL en ricanant, genre c'est rien 5 euros, non en fait.
Ouais, c'est énorme.
C'est 5 euros dans la vie d'un étudiant, c'est pas rien. Et quand les étudiants sont dans la rue et qu'ils font la queue des heures pour avoir à manger, on les traite de méchants étudiants. Et j'avais envie de rassembler tout ça, toute cette frustration, de se dire mais... j'en ai marre qu'on criminalise les galériens, quoi. C'est personne ne veut galérer, personne. Je connais personne qui dit moi je suis chômeur, c'est incroyable. Personne.
Ça, c'est un vieux. En plus, en fait, ce que tu dis, Je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que si, en fait. Enfin, je vois tellement de gens qui pensent qu'il y a plein de personnes qui profitent des APL, profitent de machin, profitent de trucs, mais personne, en vrai, enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais rencontré personne qui dit ça non plus, quoi. Tu vois, je sais pas si ces personnes.
Mais c'est... personne. C'est-à-dire que même si vous entendez un jeune qui vous dit, ah, moi, j'en ai rien à foutre, j'ai le chômage. Mais c'est une posture.
Bien sûr.
C'est une posture. Il faut voir derrière le discours. Cette personne a le droit d'être digne et dire j'en ai rien à foutre. On peut laisser leur dignité aux gens. Moi, je l'entends. Quand quelqu'un me dit moi je m'en bats les couilles, j'ai le chômage, j'attends. Mais moi j'entends juste il faut que je trouve un travail qui me plaise.
Bien sûr.
Les gens ont le droit en fait de faire commandant de leur destin, quoi. Et ça, il y a des catégories de la population à qui on le donne pas ce droit.
Non, ça me fait penser à cette phrase de Macron, je vous trouve un job de l'autre côté de la rue, tu te souviens de ce truc?
Mais ça, ce truc de Macron, c'est une phrase de politique.
Ouais, bien sûr.
Elle aurait pu être prononcée par Rocard, elle aurait pu être prononcée par Mitterrand, par n'importe qui en fait. Le politique, il est dans son rôle de faire de la politique et de faire des phrases comme ça. Mais ça traduit pas le fond du problème, c'est que on est dans un pays qui exclut les gens qui décrochent, alors qu'à un moment on devrait tous raccrocher les wagons et de se dire bon, je suis même pas en train de parler d'un projet communiste ou socialiste, hein. Je suis même pas là-dedans, parce que pour moi les socialistes ont fait tellement de mal à la France et au quartier que j'ai pas d'empathie pour eux. Mais ce que j'essaie juste de dire, c'est au moins dans le discours et dans la représentativité, laisser leur dignité aux gens, quoi.
Et tu parlais du titre, Les Méchants. Comment ça t'est venu? Du coup, t'as pensé au scénario et ensuite le titre t'est venu, ou t'as pensé au titre et ensuite...
Le premier titre du film, c'était Les Barbus.
Ouais, logique.
Ceux qui verront le film comprendront. Après, il y a eu La Boule du Dragon. Parce que la boule de Sangoku a pris une importance qu'on sous-estimait dans le film. Et en fait, Les Méchants, c'est venu parce que j'étais dans un train et il y avait une petite fille qui chantait Les Méchants de Slenfoiré. Et j'avais envie de dire, mais est-ce que un jour tu comprendras ces paroles, ma fille? Ouais. La grosse moula poursuivie par les méchants. C'est marrant, quoi. Ce n'est pas des paroles pour un enfant.
Non, ce n'est pas des paroles pour un enfant. et du coup, cette méchanceté, en fait, si tu veux, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que la méchanceté, donc clairement, elle existe dans la société, et en même temps, c'est ce que tu disais, elle n'est pas exactement là où on la croit, c'est-à-dire qu'en fait, on la projette sur des stéréotypes, tu vois, que ce soit des Arabes, des Noirs, ce que tu veux, et en même temps, la réalité, c'est que, ce que tu disais, souvent, la méchanceté, elle n'est pas exactement là, elle est souvent, on parle de la violence des cols blancs, mais cette violence des cols blancs, elle existe franchement, quoi. Tandis qu'il y a d'un côté, j'ai l'impression...
Mais les cols blancs aussi subissent de la violence.
Bien sûr.
Les gens dans la finance subissent des violences pas possibles. Ils sont sous pression, ils sont ils sont déshumanisés. Le culte du résultat, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que le malaise, il est palpable à tous les étages de la société. Quel que soit le niveau social... Mais les gens sont dans une pression. Et j'ai envie d'exclure personne, en fait. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche.
C'est le mot de la fin, d'ailleurs.
Mais c'est le mot de la fin, ouais. Ouais.
C'est clairement ce que tu essayes de faire passer, quoi, dans l'absolu. Vas-y.
Il y a un moment, l'humanité devrait s'affranchir juste de ces considérations-là. Nous, on essaie juste d'humaniser tout le monde.
Moi, ce que je trouve bien, mais après, c'est mon avis, et voilà, mais c'est que j'ai la sensation que c'est un film qui va générer des conversations, en fait.
J'espère.
Parce que derrière, tu vas dire, ah ouais, c'est vrai. Après, je ne me rends pas bien compte, parce que tu vois, je peux pas me mettre à la place des gens, mais j'ai la sensation que tous ces sujets que tu abordes de manière comique, mais qui sont des vrais sujets de société hyper profonds, bah, du coup, le fait de les aborder de manière comique, ça permet de faire passer l'information de manière différente, tu vois, parce que c'est vrai que tu vois, il y a des podcasts comme le mien ou d'autres médias qui sont un peu plus sérieux, on va dire, et qui sont pas écoutés par tout le monde nécessairement. Et du coup, les comédies, ça permet de faire passer des informations hyper profondes. Enfin, en ça, moi, je trouve que ce que tu disais au tout début, mais la comédie, c'est un super support.
L'émotion. Ce que dénonce le film, c'est que on a transformé l'information en émotion. Nous, on utilise la même émotion qu'est le rire pour faire passer notre message. Mais moi, je vais au cinéma pour avoir des émotions. Et pour suivre les aventures de Thanos. Mais c'est...
Et toutes les références...
Qu'est-ce que c'est bien Avengers quand même.
C'est quand même pas mal.
Qu'est-ce que c'est bien. Mais vraiment, Avengers Infinity, c'est incroyable. J'en peux plus de ce film tellement je l'aime. Mais vraiment.
On est très fans. On est très fans.
Ouais.
Toutes les références...
Y a le doigt de Thanos. Hein. Y a le doigt d'honneur de l'infini dans le film.
Ah, j'ai pas fait gaffe.
On a repris le gant de l'infini.
Ah mais si. Si. Non, mais j'ai adoré les références. Mais en fait, je sais même pas... Enfin bon, tu peux comprendre le film sans connaître toutes les références. Mais c'est vrai qu'il y a des tonnes de références de pop culture. C'est hallucinant, quoi.
Mais Vincent Lindon a vu le film. Il nous a dit, ça me rappelle La Cité de la Peur. Et La Cité de la Peur, c'était pareil. C'était un film qui avait 1 milliard de références.
C'est clair.
Que j'adore revoir. Et j'aimerais bien que créer un film comme ça pour les plus jeunes et les gens de ma génération, en fait, qu'on puisse revoir... Et kiffer, quoi. J'aimerais bien que les gens se réunissent entre copains, entre copines et se fassent des soirées méchantes. C'est rigolo.
Ce serait pas mal. Et ce truc de je suis Patrick, ça t'est venu d'où ? Ça t'est venu de...
Je suis Patrick, c'était après Je suis Charlie.
Ouais.
Et il y a eu plein de je suis dans tous les sens. Moi, j'étais allé manifester à la manif de Charlie. Et puis après, les gens ont fait des « je suis ceci »,« je suis cela ». Et moi, j'avais envie que ça aurait été bien qu'à un moment, on dise « je suis français ». Avec tout ce que ça englobe d'être français aujourd'hui. Et « je suis Patrick », c'est ça, en fait. Ça englobe ceux qui sont Charlie, ceux qui sont ceci, ceux qui sont cela. À partir du moment où on est dans ce pays et on partage les mêmes valeurs.
J'imagine que tu l'as fait exprès, mais je ne sais pas, en fait. Le fait d'utiliser des acteurs issus de l'immigration, mais en même temps, tu vois, le loser, entre guillemets, pour le coup, c'est un blanc. Est-ce que c'est un truc que tu as voulu faire exprès ou c'est le hasard des castings et c'est comme ça que ça s'est construit ?
Franchement, pas du tout. Pas du tout.
Tu n'y as pas pensé, en fait ?
J'y ai pas pensé. J'ai grandi avec des gens de toutes les origines en banlieue. Moi, le seul clivage que je vois, c'est riche-pauvre, en fait.
Ouais.
Quand on est pauvre, on est dans la merde ensemble. Et on fait pas trop gaffe. Enfin, en réalité, j'ai pas cette grille de lecture. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est générationnel. Que les jeunes ont de moins en moins une grille universaliste.
Ah ouais ?
On a tendance à mettre les gens les uns contre les autres, en fait.
Ça, c'est clair.
Et il faut juste rappeler qu'il y a eu des vagues d'immigration différentes, que ça ne s'est pas arrêté à l'Algérie aux années 70, et que les quartiers les plus pauvres sont toujours des quartiers d'accueil, et que ça se brasse et que ça change, quoi. Donc, il faut être capable de composer avec tout ça.
Mais par contre, ce qui est très cool, c'est que pour une fois, les personnes issues de l'immigration n'ont pas des rôles... Tu vois, stéréotypé. Enfin, alors, tu l'as pas fait exprès, donc du coup, voilà, mais en même temps...
Parce que je... C'est très facile de tomber dans la caricature et de faire rire les gens avec l'accent de ses parents. Moi, l'accent kabyle, l'accent algérien, je trouve que c'est pas un accent rigolo. Je vois pas pourquoi ça ferait rire. Je vois pas pourquoi l'accent sénégalais, l'accent malien... Déjà, dire l'accent africain, c'est pas possible.
N'est-ce pas ?
Mais... C'est aussi à nous, en fait, de dépasser ça. On ne peut pas critiquer sans cesse les autres pour produire le cliché qu'on dénonce. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux sont pires que ce qu'ils critiquent dans leurs actes. Les premières personnes sur qui ils tirent sont des gens issus de l'immigration, alors qu'ils en viennent et qu'ils jouent les antiracistes. Et je pense qu'on a quand même un petit devoir de réserve et de on a beau passer, même si on s'aime pas, c'est pas grave, on n'est pas obligé de se tirer dessus, en fait, en public en tout cas.
C'est clair. Et cela dit, tu critiques vachement tu vois, l'extrême droite et les accents, justement. Enfin, tu vois, il y a
l'extrême droite qui rigole avec les accents, les bobos qui en font des films des banlieusards pour aller gagner des prix à Cannes, tout le monde, je critique tout le monde, en fait.
Ouais.
Moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui soit pas d'accord politiquement avec moi. quelqu'un qui me dit pour moi l'islam est un problème, l'immigration est un problème, ce que tu représentes, Mouloud Achour, est un problème, je me dis bon bah c'est pas grave, va voter, et j'irai voter, et puis on verra dans quel pays on est, mais je pense qu'on verra dans quel pays on est si tout le monde va voter. Pas, et on peut pas se fier au bruit médiatique, parce que encore une fois les réseaux sociaux biaisent
totalement
ce qui intéresse les médias. C'est sûr qu'une parole raciste, une parole de islamophobe va fonctionner sur les réseaux sociaux parce que ça va créer de l'indignation. Mais je pense pas que qu'en France, d'ailleurs les régionales l'ont prouvé,